I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
And enjoy watching the games from Barcelona is much more important than only winning.
On a le ballon, va falloir se mettre dans les conditions aussi pour tout faire, pour bien l'utiliser. On va pas le rendre à l'adversaire, on va pas le donner à l'adversaire.
I learn here that everything starts with the ball and finishes with the ball.
Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour un nouvel épisode de notre podcast, toujours avec les copains déconfinés, Bouba et Albert. Comment ça va les garçons?
Salut, bah écoute, ça va très bien. Content d'enregistrer un nouveau podcast avec vous.
Ça va, Bouba?
Écoute, ça va, déconfiné, heureux. Ça faisait longtemps, rien manqué.
Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast parce que Albert n'avait pas envie. Et ça, je plaisante bien évidemment, c'est juste que je suis un énorme flemmard.
Non, c'est juste que Bouba avait le Covid, on ne voulait pas le choper via Skype.
C'est vrai, ça aussi. Mais malheureusement, il est encore là. Enfin, malheureusement. Non, je plaisante bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'entraîneur qui monte. Qui commence à faire plus que son trou du côté de la Bundesliga, c'est M. Nagelsmann, qui a 32 ans, qui est déjà entraîneur depuis quelques saisons, 4 ans en Bundesliga.
Ça fait 4 ans, février 2016.
Février 2016, sa première saison du côté de Hoffenheim, maintenant il est du côté de Leipzig, il est actuellement 3e du championnat, et c'est vraiment l'entraîneur du futur. Moi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, évidemment, la première question avant de commencer, c'est les garçons, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Nagelsmann? Bouba, pour commencer.
En fait, moi, je pense que c'est quelqu'un de novateur dans son approche, dans le sens où il est très, très jeune et il a beaucoup de choses à apprendre et il apprend beaucoup de choses aux gens en même temps.
Albert?
Oui, ce côté novateur, mais surtout... innovant, où on va peut-être en parler, mais il utilise pas mal les nouvelles technologies. Comme tout grand entraîneur, il a piqué du mieux un peu partout. D'ailleurs, une de ses idoles est Guardiola, mais il ne se caractérise pas que pour son jeu de possession. Mais voilà, il est futuriste. Franchement, il apporte vraiment quelque chose de nouveau.
Ouais, je suis totalement d'accord, je vous rejoins sur tous les points. Et puis, donc ça, c'est une petite parenthèse, on ne va pas encore en refaire un débat là-dessus. Mais le fait qu'il n'ait pas été joueur de football, on voit, voilà, il y a des joueurs qui ont été, enfin des entraîneurs qui ont été joueurs, qui ont des carrières extraordinaires d'entraîneurs, là n'est pas la question. Mais le fait que lui n'ait pas été joueur, j'ai l'impression qu'il voit le football d'une façon un petit peu différente, un petit peu plus stratégique, un peu plus dans l'analyse. Il a réussi à canaliser à la fois ce côté philosophie et stratégie que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'entraîneur du futur. Parce que, et je le disais dans la vidéo que j'ai faite qui est sur YouTube, il y a le style Guardiola. Et toi, tu le disais, Elder, et tu as raison, il est très inspiré de Guardiola dans la partie possession. Mais son équipe est également capable de jouer en contre et de tuer n'importe qui en contre, d'exploser très, très rapidement vers l'avant. Et en plus de ça, on rajoute la partie stratégie, c'est-à-dire que selon si l'équipe adverse attaque avec deux pointes ou défend avec trois défenseurs, lui, il va adapter, tout en gardant sa philosophie, mais adapter à l'intérieur de sa philosophie ces petites choses, cette stratégie pour pouvoir bloquer l'adversaire également. Je ne sais pas si vous, c'est un truc que vous avez ressenti peut-être en regardant les matchs de Leipzig ou à l'époque de Hoffenheim.
Mais en fait, il y a un truc peut-être tout con pour caractériser ce que tu dis. Si tu fais une compile des buts marqués par Leipzig, tu vas en avoir 50 différents.
C'est exactement ça, ouais, absolument.
Tu vois, c'est pas une équipe stéréotypée, parce que justement, c'est une équipe très intelligente et qui s'adapte toujours aussi bien à ses forces, mais surtout aux faiblesses de l'adversaire. Et si on prend le dernier match là, depuis que ça a repris à huis clos en Allemagne, où ils ont mis une fessée, alors j'ai plus un adversaire à Mayence, il y a un but, c'est carrément une passe D du goal. Parce que voilà, s'il y a possibilité de tuer l'adversaire,
je crois que dans le même match, d'une passe. Et dans le même match, tu as une action avec quoi, une bonne dizaine de passes avant.
C'est ça.
Ouais. Sabitzer se retrouve au dernier moment, il fait juste une petite passe, je crois que c'est à Werner. Et juste une petite passe, et il a juste à la pousser devant le but en une phase de possession absolument terrible et magnifique, et que des bonnes décisions dans les passes.
C'est ce que j'allais dire. Il y a cette froideur, cette clinique allemande qui te voit, si on peut tuer l'adversaire, on va le tuer, et de la meilleure des façons, selon la situation dans laquelle l'équipe se trouve, c'est toujours bien réagir.
Bah, tu vois, ce match,
quel est ton sentiment, toi ?
Bah, ce match de Mayence, en fait, c'est le parfait exemple, parce qu'en fait, il y a, je crois qu'il y a 5 ou 6 buts, et en fait, ils sont tous différents. Il y a une contre-attaque éclair, il y a de la possession, il y a plein de trucs différents, et en fait, moi, j'ai beaucoup regardé Hoffenheim, et en fait, à Hoffenheim, il avait des jeunes joueurs un peu, et en fait, tu voyais que pendant les matchs, en fait, ils changeaient peut-être 2 ou 3 fois de tactique pour s'adapter à chaque fois. Et en fait, c'était intéressant parce qu'en fait, on parle pas, mais un joueur comme Serge Gabry, en fait, il y était. Il y a aussi Isaac Belfodil, ce genre de joueur. Et en fait, ces gens-là, en fait, ils ont changé de tactique dans un match plusieurs fois. Et ça, c'était incroyable pour une petite équipe comme Hoffenheim, en fait.
Mais bien sûr, parce qu'il a cette. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en regardant les matchs de Leipzig, enfin, en me plongeant un peu plus profondément dans les matchs de Leipzig, c'est cette capacité qu'a l'équipe où on voit qu'il a une connaissance de la part des joueurs globale de la tactique. Mais pas de la tactique dans le sens. Par exemple, il y a des entraîneurs qui sont. Je sais pas, je vais vous donner un Arrigo Sacchi. Enfin, Diego Simeone aujourd'hui, qui sont très accrochés par exemple à leur 4-4-2, tous les deux, avec des philosophies totalement différentes, mais qui sont des entraîneurs qui sont bloqués sur ce système-là, enfin, qu'il était pour la part pour Sacchi, mais qui sont bloqués sur ce système-là, qui ne changent pas, voilà, c'est ça, ça reste ça, c'est figé, et ça ne bouge pas trop. Et ils ont du mal à inclure des joueurs, et on le voit par exemple du côté de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, il y a des joueurs qu'il a du mal à faire rentrer dans son système, et il y en a des tonnes de flops. En plus de la philosophie qui est un petit peu particulière, il y a aussi ce côté, ce schéma-là. Et moi, la petite histoire, c'est dans la biographie de Carlo Ancelotti, il dit que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir su intégrer Zola à l'époque du côté de Parme dans son schéma. Parce qu'en fait, il sortait de l'école Arrigo Sacchi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur adjoint avec l'Italie en 1994. Et Zola était un vrai numéro 10. Il avait du mal à le faire jouer dans son 4-4-2, en fait. Il a essayé à gauche, il a essayé en pointe, mais ça marchait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il est parti. Et il dit que c'est son plus grand regret. Et qu'après, il a appris de ça, il a dit, attends, je peux pas me passer, quand après il était à Juve, je peux pas me passer d'un Zidane sous prétexte que je joue un 4-4-2, il faut que je change les choses. Et c'est pour ça qu'il a évolué. Et Nagelsmann, il est un peu l'inverse de ces entraîneurs qui sont carrés sur le schéma. Il a des philosophies, parce qu'il n'y en a pas qu'une, et après, tout bouge. Mais la philosophie, elle bouge pas. Les philosophies, d'ailleurs, elles bougent pas. Mais le schéma, après, il éclate.
Bah, tu vois, en fait, moi, il me fait penser à... Je sais pas si vous avez ce truc-là, mais en fait, les joueurs de football américain ou de basket, quand ils arrivent en fait dans une équipe, ils ont un manuel à apprendre, un manuel de tactique, en fait. Et en fait, je me dis, Nagelsmann, il doit faire la même chose avec ses joueurs. En fait, il les amène, ils viennent. OK, bon, bah, t'as 8 tactiques à apprendre, 8 schémas de jeu qu'on va avoir sous différentes formes. Et en fait, j'ai l'impression que les joueurs, en fait, c'est... Dès que quelqu'un a bougé, ils savent où ils doivent se placer. Et en fait... pour des joueurs du niveau d'Offenheim, c'était déjà incroyable parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, c'est comme s'il appelait les jeux, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me dis, à chaque fois que je le vois et qu'il change son truc, il appelle 5-6 mouvements et l'équipe adverse, en fait, elle est déstabilisée.
Ouais, c'est vrai, tu as cette impression un peu de coach de football américain qui profite de chaque temps mort entre chaque action pour donner la bonne instruction, pour s'adapter à la situation qu'il rencontre en match. Après, je trouve aussi, et c'est vrai, hein, ce que tu dis, Bouba, mais en plus de ça, c'est bien aidé par le fait qu'il a globalement dans son effectif beaucoup de polyvalence à tous les postes. Il n'a pas des joueurs cloisonnés à un seul poste. Et ça favorise beaucoup. Tu vois, si tu prends un Mukiele, par exemple, qui est capable de jouer aussi bien sur une aile que dans l'axe, eh ben, c'est un type de joueur qui peut s'adapter quand ils vont jouer à 4 derrière que quand ils vont jouer à 5. Il n'est pas contraint par ça.
Oui, c'est ça.
Et c'est aussi le fruit d'une philosophie très intelligente en termes de recrutement de tout l'Empire Red Bull. Hein.
Ouais, mais absolument. Et je te rejoins, Bouba, et le parallèle avec le football américain est super. Et je pense que ce n'est même pas, tu sais, des tactiques globales, des schémas. C'est plus dans la micro, c'est-à-dire que c'est des positionnements. C'est-à-dire que quand un défenseur central sort au pressing sur un attaquant entre les lignes, les autres défenseurs savent comment réagir pour se positionner. Et, oui. Ça, c'est que tu joues à 5 ou que tu joues à 4, c'est les mêmes logiques. Quand tu as ton milieu latéral qui sort au pressing, les milieux en couverture, les milieux centraux en couverture savent également comment se positionner. Et ça, je pense que ça, c'est des schémas de jeu. Donc après que tu passes à 4 au milieu de terrain, à 5, etc., c'est l'intelligence de jeu des joueurs, de ce qu'ils ont appris, qui leur permet de s'adapter beaucoup plus facilement. Que tu joues à 4, à 5, l'idée reste la même, les couvertures d'espace, les zones à protéger, les zones à pouvoir laisser ouvertes, ou restent les mêmes. Et ce que tu disais, Elder, en plus de la polyvalence, ils ont tous des caractéristiques où ils peuvent, t'as l'impression qu'ils peuvent jouer à n'importe quelle position presque. Ils ont une bonne qualité technique, pratiquement tous, ouais. Des capacités physiques capables de répondre, de gérer des efforts, de faire beaucoup d'efforts d'avant en arrière. Et t'as l'impression que les mecs, putain, tu peux les changer tous de place et que ça continuerait de tourner. Enfin, j'exagère un petit peu, bien évidemment, mais t'as, mais presque ce sentiment-là.
Mais c'est ça. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais à un moment, genre... Moi, je regarde Nkunku, Sabitzer et Timo Werner. Quand on les regarde jouer, ils se regardent toujours pour savoir là où est l'un ou l'autre. Et ouais. Ça, c'est incroyable parce qu'en fait, quand tu vois que Nkunku s'adapte à la course de Sabitzer, qui s'adapte à Timo Werner, tu te dis incroyable, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à du football américain ou à du basket, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde se regarde et tout le monde sait à un moment donné qui fait quoi, comment.
Mais ça, c'était une phrase de Saki, mais lui, c'était par rapport à la défense en zone. Il disait, la première chose que tu regardes, c'est le ballon, ensuite, c'est le coéquipier, et en dernier, seulement l'adversaire. Donc, tu dois toujours te placer par rapport au ballon, etc. Moi, pour préciser ce que tu dis en plus, quelque chose que j'ai vu, et ça, je l'ai mis dans la vidéo, je l'ai montré dans la vidéo, c'était la capacité et la volonté de toujours laisser un joueur face au jeu. C'est-à-dire que tu allais trouver entre les lignes, c'est-à-dire que tu as face à toi, je ne sais pas, un milieu de terrain à 4, tu vois, tu joues face à une équipe qui joue en 4-4-2, tu as le défenseur central, par exemple, que ce soit Upamecano ou Konaté, pour mettre en avant les garçons de l'équipe de France Espoir, qui ont le ballon et qui vont toujours chercher un joueur entre les lignes, un milieu de terrain qui va venir demander derrière le bloc du milieu de terrain, entre les lignes, qui va recevoir de haut but et tout de suite la mettre à un joueur qui arrive lui face au jeu et qui a le jeu face à lui. Mais comme ça, tu as brisé une ligne. Et tu vois, c'est un peu l'école Barça du troisième homme, hein, ouais, bien évidemment.
Tout à fait.
Mais tu vois, cette capacité-là de toujours essayer de trouver le joueur. Et quand tu parlais des trois du milieu de terrain, là, enfin non, tu mettais Werner dans le lot. Mais moi, je trouve que par exemple, Nkunku, Sabitzer, Olmo même, et Campbell, les quatre, tu as l'impression que tu peux les faire jouer dans un 4-4-2, tu peux les faire jouer dans les quatre positions différentes.
Ouais,
à gauche, à droite, dans l'axe, machin. Les mecs bougent, et il y a des actions où ça bouge, où tu retrouves Sabitzer côté gauche, Olmo en 10, machin. Et la qualité reste la même. Moi, je trouve ça assez extraordinaire.
Et les défenseurs centraux vont toujours chercher effectivement celui qui est le plus loin pour que celui-ci puisse remiser au milieu qui est face au jeu.
Et attention, quand on dit ça, c'est pas un ballon quéquette. Hein.
Non.
C'est un ballon d'une qualité parce qu'il faut du courage, parce que tu perds le ballon, tu te prends un contre plein axe machin,
c'est
un ballon au sol, rasant dans les pieds, toujours dans le bon tempo, c'est-à-dire sur le bon pied, si le mec est gaucher, sur le pied gauche, pas dans le dos, pas machin, toujours trouver l'attaquant ou le milieu de terrain entre les lignes pour que celui-ci puisse laisser un autre joueur ensuite face au jeu, que ce soit sur un côté ou dans l'axe,
et ça, c'est la vraie patte Nagelsmann, c'est-à-dire qu'un défenseur central, s'il tente cette passe-là 50 fois dans un même match, c'est parce qu'il sait que s'il va la rater, le coach va rien dire.
Ah, bien
parce
sûr.
Que c'est la consigne de base, qu'il sait que s'il fait une boulette et que derrière il y a un contre-but, il sera défendu par son coach.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un Hoffenheim-Lyon il y a un an ou deux. Hoffenheim
an, c'était l'année dernière.
Ouais, Hoffenheim mène de ouf. Le match, il est presque plié. Et tu vois qu'en fait, ils continuent de jouer et ils font plusieurs erreurs. Ils font un match nul, quoi. Et vraiment, genre, tu te rends compte que ils ont quand même continué à jouer, tu vois. Malgré le fait que le Lyon soit revenu, qu'ils aient un match nul miraculeux, mais tu vois que pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, Lyon il se faisait mais boire, tu vois. Et c'était incroyable parce que tu vois, ce jeu-là était fantastique. Et je me dis en fait, tu vois, genre, maintenant qu'il est à Leipzig, il a des joueurs un peu plus élevés techniquement et tactiquement, mais enfin, il va les faire progresser énormément en fait, tu vois. Et c'est ce que vraiment j'attends de voir l'année prochaine, voire dans un an et demi, tu vois.
Mais c'est déjà là qualifié pour les quarts de finale Ligue des Champions en mettant 3-0 à l'un des meilleurs coachs de ce siècle.
Bien sûr, non, mais ça, et puis moi je suis persuadé que s'il arrivait à garder ces joueurs-là pendant 4, 5, 6 ans, il pourrait. On voit déjà où il en est, comme tu dis, Elder, quart de finale Ligue des Champions, troisième actuellement Bundesliga. Tu dis s'il les garde, parce qu'on parle quand même de mecs ultra jeunes encore. Nkunku, il est super jeune, Werner, il est super jeune, Upamecano, super jeune, Konaté, super jeune. Là, il est Angelino, bon, il est prêté, mais il est quand même très jeune. Mukiele est très jeune. Enfin, tu as quand même beaucoup, beaucoup de jeunesse dans cette équipe-là. Olmo aussi, ils ont oublié, j'adore ce joueur. Donc, tu dis, s'il passe 4 ans, 3-4 ans avec eux, ça peut devenir une équipe de tueurs à gages, quoi. Non, mais après, bon, tu as forcément tu as des intérêts d'autres clubs, voilà, c'est compliqué.
Et au-delà de ça, il faudra voir aussi la philosophie sportive et économique du club. Peut-être que l'intérêt, c'est de faire ce qui est un peu à la mode du trading et qu'effectivement, il y a des sommes qui ne pourront peut-être pas se refuser.
Bien sûr.
Mais de toute façon, je pense qu'on peut quand même compter sur Red Bull pour savoir remplacer les bons joueurs qui partiront.
Oui, bien sûr, mais il faut dire que tu recommences le process de zéro. Tu vois, et les connaissances que les joueurs ont acquises pendant 2, 3, 4 saisons, il va falloir recommencer de zéro avec les nouveaux qui arrivent.
Moi, en fait, je trouve qu'entre l'année dernière et cette année, en fait, je trouve que Leipzig est beaucoup plus redoutable parce que je trouve qu'en fait, ils sont beaucoup plus tueurs et je trouve qu'en fait, il y a certains joueurs qui ont pris beaucoup plus de volume. Par exemple, Sabitzer, il a pris du volume, Konrad Leimer, Mukele, il a pris du volume, tu vois, c'est incroyable. Même Aubameyang, on disait que c'était un espoir. Je trouve que il commence à confirmer, il commence à outrepasser le fait d'être espoir, tu vois.
Aubameyang, pour moi, il est en bleu aujourd'hui.
Mais c'est ça, tu vois. Et je trouve qu'en fait, l'année dernière, tu vois, il était encore espoir, tu vois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont outrepassé. Et celui qui est le plus visible, c'est Timo Werner. Enfin, dans les appels de balles, il est beaucoup plus tranchant, il est beaucoup plus tueur. Après. Je pense qu'il n'est pas encore fini parce que ça, c'est mon avis. Mais je trouve que déjà, le gap entre l'année dernière et cette année, je trouve que Leipzig, il l'attend en passant les quarts de finale, comme tu as dit, Elder. Tu vois. Mais on attend vraiment de voir que de la consistance. Après, j'avoue que le Covid n'a pas aidé, mais ce match contre Tottenham au retour, c'était incroyable. Quoi.
Non, je suis d'accord avec toi. Et pour Werner, moi, je trouve que ce qui m'a le plus impressionné dans son évolution, c'est sa relation technique avec le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un attaquant qui participe à la construction aussi, qui va décrocher, demander ballon entre les lignes, venir combiner, jouer, etc. Et c'est quelque chose de très, un peu comme Firmino, tu vois, du côté de Liverpool, par exemple, où Lewandowski aussi le fait très, très bien du côté du Bayern.
C'est et pour pas moi, ça, c'est... qu'on avait de lui ses premières
non,
années.
Non, c'était un mec rapide, machin, qui attaquait vite la profondeur. Mais techniquement, il l'a pris parce que recevoir le ballon comme ça, dos au but, la jouer en une touche, et il faut que ça aille très vite et très, très, très précis. Tu peux pas mettre si le mec il est droitier, tu peux pas la mettre sur le pied gauche. Si le mec il est l'inverse, si le mec il est droitier, tu peux pas lui mettre. Si le mec est gaucher, tu peux pas le mettre sur le pied droit, etc., etc. Si le mec prend la profondeur, tu dois lui mettre dans le bon espace dans sa course. Et ça, je trouve que sur ça, Werner a beaucoup, beaucoup progressé, vraiment. Et je pense que sur ça, Nagelsmann a été vraiment très important.
Je sais pas si vous rappelez.
Vas-y.
Je ne sais pas si vous rappelez, mais l'année dernière, déjà, il était beaucoup hors-jeu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, il fait toujours cet appel. Il part du côté gauche et il rentre dans l'axe.
En diagonale,
il le fait tout le temps. Maintenant, il fait beaucoup plus d'appels.
C'est vrai.
En plein axe, et il le fait souvent de l'autre côté. Parce que je me rappelle, avant, Timo Werner était toujours calé sur le côté gauche, et il faisait toujours le même appel tout le temps, tu vois. Et des fois, il était beaucoup plus. En fait, cette année, je l'ai trouvé qu'il était beaucoup moins de fois hors-jeu qu'avant. Et peut-être que c'est à cause du tempo et tout, mais je trouve que rien que ça, pour un attaquant, ça veut dire qu'il a appris un peu et qu'il est devenu un peu plus intelligent.
Non, mais dans sa lecture du jeu, tu vois, c'est ça. Il a beaucoup progressé. Et une petite chose, là, pour changer de thème, mais ce que tu disais tout à l'heure, je crois que c'était Bouba qui parlait de ça. Dans le match non, c'était Elder, pardon. Tu disais dans le jeu de passe, etc., on disait, tu sais, les défenseurs centraux qui cherchent toujours. Ils cherchent toujours, mais il y a également cette capacité que moi j'adore du côté de Leipzig, c'est que si à un moment donné il y a une récupération et qu'il y a la possibilité de tuer l'adversaire en une passe, ils vont pas la laisser passer. Et tu parlais, toi, tout à l'heure, Bouba, je crois, de la passe du gardien. Il y a eu un but avec une passe du goal à Timo Werner, je crois. Ils savent garder le ballon, ils savent contrôler jusqu'à trouver l'espace pour pas te tuer en vitesse dans la profondeur. Mais s'il faut en une seule passe te tuer, ils vont pas hésiter.
Ça montre toute l'intelligence du club, de l'équipe, je veux dire, de Nagelsmann et de ses joueurs. Non, ce qui peut manquer, ce qui manque, pourquoi alors là, on est en train de dire que des superlatifs positifs, mais c'est une équipe qui ne va pas être championne cette année parce que, de manière surprenante, on a un Bayern énorme ici. Mais ce qui peut manquer, effectivement, c'est peut-être de la durée et du temps.
Et, bah en fait,
effectivement, ces 11 joueurs, s'ils sont encore ensemble dans 2-3 ans, on pourra espérer peut-être de meilleures choses.
Moi, ce que j'attends, en fait, c'est que, tu vois, là, on a eu Leipzig l'année dernière qui était un peu bien et tout. Là, on a un Leipzig qui travaille, qui réfléchit sur une tactique. Moi, j'attends de voir l'année prochaine ou dans 2 ans l'adaptation des équipes adverses. C'est ça le truc. Même si ils sont hyper polyvalents, Leipzig est hyper polyvalent, j'attends de voir l'adaptation des autres équipes. Parce qu'en fait, à un moment donné, là, on va dire qu'ils sont assez surprenants dans le sens où en fait c'est nouveau encore, c'est encore un peu nouveau. Malgré le fait qu'ils sont là depuis 2-3 ans, c'est encore un peu nouveau que Nagelsmann prenne autant d'allants, qu'il change 2-3 fois de tactique. Moi j'attends de voir en fait l'adaptation des autres joueurs et j'attends aussi de voir l'adaptation contre les grandes équipes.
Mais ça, tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète pas trop, parce que moi, justement, ce qui m'a aussi pas mal impressionné avec Nagelsmann, c'est sa capacité à, tu sais, plus que changer le schéma, c'est la micro-tactique, c'est-à-dire venir placer le joueur. Par exemple, il y a eu un match que j'ai analysé où je pense qu'il a remarqué que l'équipe adverse se faisait beaucoup de passes dans la... Les défenseurs, dans le latéral, c'est les défenseurs entre eux se faisaient beaucoup de passes. Et il a placé Werner pratiquement entre les... juste là, au niveau de ces mecs-là, pour les empêcher, tu sais, de jouer entre eux, tu vois. Et ça, je pense que sur la micro-tactique, sur l'adaptation stratégique, il est très, très fort. Mais bien sûr, c'est un des points qu'il va devoir, enfin, qu'on attend de voir sur les prochaines saisons. Parce que la première saison, c'est toujours idyllique. Mais après, gérer le vestiaire, gérer tout ça, etc., ça peut être compliqué. Et la petite question pour terminer, les copains, parce qu'on arrive pratiquement à la fin. Est-ce que pour vous, et quand je dis nouvelle génération, ce n'est pas forcément les mecs de moins de 40 ans. Hein, on va dire que c'est les gars qui n'ont pas encore touché un énorme club. Donc on va avoir du Paulo Fonseca, des mecs comme ça dedans qui ont pourtant un peu plus de 40 ans. Est-ce que c'est le meilleur de cette toute nouvelle, enfin de cette nouvelle génération qui n'a pas encore coaché un grand grand club?
On va dire que c'est le plus armé et celui qui est le plus visible pour moi.
Ouais, il a cette visibilité déjà d'être dans un très grand championnat et aussi haut dans le classement de ce championnat. Mais oui, c'est le plus visible. Il y a certainement d'autres pour lesquels on a aussi certaines ambitions. Steven Nagelsmann, tu prends aucun risque en disant que dans moins de 5 ans, il est dans un très grand club et que dans 10 ans, peut-être, il a gagné la Ligue des Champions. Contrairement à d'autres qui sont tout aussi intéressants, tu vois, un De Zerbi, j'ai envie de le voir dans un grand club d'Italie. Bien sûr. J'ai un exemple, hein, mais je ne dis pas que De Zerbi est meilleur que Nagelsmann. Mais juste que j'aimerais bien voir au-dessus.
Mais en fait, moi, je pense que c'est un peu, ouais, c'est le plus armé, et je pense que c'est un peu, ça va être le fer de lance de cette nouvelle génération, en fait. Ça va être un peu le porte-étendard, dans le sens où, en fait, on lui a donné des responsabilités très rapidement. Là, il tient Leipzig, qui doit quand même, à terme, concurrencer le Bayern dans pas très très longtemps. Et je pense que ce sera lui un peu le fer de lance de cette nouvelle génération d'entraîneurs.
Et il a ce côté, alors on connaît peut-être moins et on ne sait peut-être pas toute la vérité, mais il a cette étiquette nouvelle technologie qui le rend encore plus en avance sur son temps.
Bien sûr.
Et en tout cas, j'ai l'importance de la donnée dans l'analyse du foot. Donc,
moi, je pense que j'ai plus hâte encore de le voir sortir du championnat d'Allemagne et de le voir dans un autre championnat, de voir comment il s'adapterait. Un peu hors de sa zone de confort. J'ai l'impression qu'en Allemagne, c'est... il est vu un peu comme la future. Non, mais c'est pas qu'il connaît, mais je pense qu'il est vu comme la future star et.
Ouais, comme le bon élève premier de la
comme
classe.
Comme le bon élève premier, exactement, tu vois, à qui on donne tout et qu'il faut protéger un peu, chouchouter. Un peu comme Mbappé en France, tu vois, le génie français. Comme dirait notre ami Steph, qui. mais moi, j'ai envie de le voir peut-être dans un endroit où. Tu vois, on va peut-être un peu lui rentrer dedans. Voilà. Et puis, c'est rare en plus de voir des entraîneurs allemands qui s'exportent. Hein. Il y a eu Klopp, mais ils sont pas très, très.
Ils sont pas beaucoup, non.
Ils sont pas beaucoup. Donc, j'aimerais bien voir, moi, à l'étranger. Tu vois. Mais pas dans un top club, dans un club presque grand. Tu vois, un Atlético Madrid, un Tottenham. Là, j'ai tous les fans de l'Atlético Madrid et de Tottenham qui vont m'insulter. Mais
non, tu vois, Arsenal.
Ce genre de. Ou Arsenal. Ça, c'est toi qui vas m'insulter si je le dis.
Non,
donc, c'est pour ça que.
Mais en fait, je pense qu'un mec comme Nagelsmann, il doit passer par ses clubs.
Pour moi, c'est un entraîneur de projet. Je suis d'accord avec ça. Un entraîneur sur 4-5 saisons. Tu vois,
c'est ça.
Pas un entraîneur qui arrive juste une année. Voilà, bam.
Tu vois, ça va être un exemple simple, mais je pense pas qu'il puisse aller à Manchester United, tu vois. Non. Tu vois,
à l'heure actuelle, si, peut-être, mais en tout cas, je ne vois pas prendre un
non, le système n'est pas en fait
un Real Madrid,
est...
un Barça, une Juve, je sais pas.
Mais tu vois, pour Manchester, tu vois, genre c'est trop flashy tout de suite, tu vois. Manchester, tu vois, quand ils ont des résultats, on peut pas les cacher. Tu vois, moi je pense qu'un mec comme lui, en fait, il a besoin d'un peu de temps. Tu sais, je sais pas, tu sais, il arrive avec son bouquin et il dit bon, les 23 joueurs, allez, on se pose, vous allez chacun me poser des questions sur le bouquin, comme ils font en NBA, ils parlent 8 tactiques. On va parler des 8 tactiques, vous avez des questions, vous me les posez, et on va travailler ça pendant 6-7 mois, et après on va l'appliquer pleinement, tu vois. Et je me dis, le temps qu'il pourra avoir pour ça, c'est des clubs de pas de deuxième. Ça fait mal de dire ça parce que c'est mon club de cœur, mais bon, de deuxième qui joue pas le championnat, qui gagne pas, qui gagne pas le championnat, quoi, qui doit rentrer.
Pas l'exigence de
c'est ça.
Être champion cette saison, ouais, bien sûr.
C'est ça.
Bon, les copains, c'était super de parler de ce petit Nagelsmann. N'oubliez pas à nos auditeurs d'aller, si vous n'avez pas vu la vidéo, où là il y aura des images et je fais une petite analyse tactique de Leipzig coaché par Nagelsmann. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, aller regarder le club rétro aussi, si vous avez été intéressé par des maillots rétro, classe, trop stylés. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On parlera de football, de tactique et peut-être d'un nouvel entraîneur, je pense, du côté de l'Italie.
Bah, vivement la Serie A.
Ouais, vivement la Serie A. Allez, à très bientôt les copains.
Salut.
Ciao.
I'm saying it's true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
And enjoy watching the games from Barcelona is much more important than only winning.
Quand on a le ballon, va falloir se mettre dans les conditions aussi pour tout faire pour bien l'utiliser. On va pas le rendre à l'adversaire, on va pas le donner à l'adversaire.
I learned here that everything starts with the ball and finishes with the ball.